le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Diéki.
Alors que la famine fait rage dans de nombreux pays du continent, les sols africains produisent des denrées alimentaires au profit d'autres pays comme la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Cette situation alarmante préoccupe les associations locales et les ONG qui alertent et militent pour la préservation des systèmes fonciers traditionnels africains. Vous avez envie de réagir? Le téléphone 01 55 07 58 00. Et si vous appelez de l'extérieur de la France, 00 33 1 55 07 58 00.
D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses.
Oui, bonjour amis du JDA.
Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et
bonjour Richard, bonjour Eugénie.
Informé sans déformer, jugé sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Et avant d'accueillir nos invités, faisons un petit tour du côté du répondeur de la radio africaine. Vous êtes nombreux à réagir, hein, les auditeurs maliens, concernant le code de la famille, qui suscite évidemment passion et commentaires.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour maman Eugénie, bonjour. Je voulais réagir par rapport au débat d'hier, là, ce qui concerne le débat du truc de Mali, là, ce qui concerne l'héritage. Bon, en Afrique, généralement, moi, je pense que les politiciens, ils ont pris ce débat pour faire endormir la population. Il y a les vrais problèmes qui sont là. Moi, je pense que l'héritage, c'est pas l'État malien, soit n'importe quel pays, c'est pas l'État qui doit discuter et partager, pardon, l'héritage. Tu sais, généralement, nous, les Africains, on n'est pas organisé, on a tellement peur de la mort, on ne prépare rien, on reste comme ça jusqu'à la mort. Même nos richards, ceux qui ont des moyens, ils ont tellement peur de la mort. Regardez, en Europe aussi, les Européens, il faut faire un testament. Si tu sais que tu as... Bon, j'ai écouté hier, il y a un qui dit oui, les enfants qui sont dehors, les femmes, ils n'ont pas droit à l'héritage, tout ça... C'est n'importe quoi. Et celui qui n'a jamais eu enfant, et s'il a de dire comment partager, si tu fais un testament. Et il y a des gens, ils n'ont pas de garçons, ils ont que des filles. Par exemple, tu as eu qu'une fille, tu as des moyens. Et on fait comment? Ce qui est resté derrière, on va le jeter dans la mer? Non, un héritage, ça se partage. C'est nous, les Africains, on doit s'organiser. Si tu sais que tu as des enfants, qu'il est dehors ou pas, il est dans la cour ou dehors, celui qui est dehors, tu fais un testament, celui-là appartient à tel, celui-là appartient à tel, que ce soit des filles ou pas. Même la religion n'a pas exclu les femmes, hein, l'héritage. Les femmes, ils ont leurs droits aussi, mais pas beaucoup que les hommes, parce que les femmes, généralement, une fois que tu es marié, tu vas dans ton foyer.
Allô, bonjour Judéa. Je m'appelle Ali. Je voudrais intervenir à propos des sujets d'hier, ce qui concerne les codes de famille du Mali. Je voudrais seulement parler à mes sœurs et mes frères qui sont intervenus hier à propos de ce qui concerne les codes du Mali. Je voudrais dire ma sœur, celle qui a parlé hier, elle a dit qu'elle est musulmane. Elle est née musulmane sans père et mère. Pour moi, elle n'est pas musulmane. Elle porte seulement que le nom de musulmane. Que si elle est vraiment musulmane, elle ne pouvait jamais dire les codes de famille. Un enfant hors de mariage hérité son père. C'est impossible. Si c'est vrai, si elle a les preuves, elle n'a qu'à montrer dans les verses coraniques, il est dans un verse hadith, là où elle a dit ça. Si c'est vrai, elle connaît ce qu'on dit, les chariats disent là aussi qui concerne les musulmans. Ce qu'on a dit, ça concerne que les musulmans et les musulmans. Ni chrétien, ni catholique, ni autre religion n'a pas impliqué dans ces problèmes. Ça concerne seulement que les musulmans. Donc, si quelqu'un est musulman, il a obéi à Dieu. Il ne descend pas pour dire que faire ça ou faire ça. Il envoie seulement que les messagers pour vous transmettre ce qu'elle a dit. Tu veux, tu obéis à Dieu. Si tu ne veux pas, tu désobéis. Ça dépend de toi. Donc, si ils ont des enfants hors mariage, ils veulent que les enfants ils bénéficient leur bien. C'est pas qu'ils vont dire qu'il faut que tout le monde rentre dans leur bateau, parce qu'ils connaissent leur bateau, leur destination, leur dernier. Donc nous ne rentrons jamais dans ce problème-là. Un enfant hors de mariage ne bénéficiera jamais du bien de son père. C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui a sauté avec une femme pour dire qu'il va marier sa femme-là. Ça n'en sera jamais. Donc c'est pas qu'ils vont nous embouquer. Parce qu'il y a les démocraties ou je ne sais pas, laïcité ou de quoi. Chacun est libre de se sécuriser. Ce n'est pas qu'il va mettre les gens dans les problèmes là où il n'y en a pas. On appelle seulement que les musulmans, quelle que soit la personne du Mali ou du monde entier, si les musulmans ou les musulmans, ils doivent respecter ce que Dieu a dit. Merci, Idéa, bonne journée. Et là seulement que nous, les musulmans, pas musulmans, parce que les musulmans, elles ne parleront jamais.
01 55 07 58 05 ou 00 33 1 55 07 58 05 si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs.
Parlons à présent du dossier du JDA avec mon premier invité Prosper Alagbé. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes consultant spécialiste de la lutte contre le blanchiment de capitaux, président d'Africa Compliance. Les gouvernements africains louent et vendent les terres agricoles du continent aux pays étrangers et aux multinationales, et cela à un moment où la question des investissements pour relancer l'agriculture se pose avec insistance. Alors, est-ce que la situation est gravissime selon vous, Prosper Alagbé?
Oui, déjà, merci de me donner cette opportunité de m'exprimer sur le sujet. Très clairement, je pense qu'il faut revoir le problème dans l'autre sens, au fait. Hein.
Dans l'autre sens.
Parce que ce problème donc d'investissement dans les terres arables, ça a démarré en 2007 et sous l'impulsion essentiellement donc de la Chine et de certains pays émergents qui ont aujourd'hui une problématique qui est très claire, c'est qu'ils n'ont pas assez de terres arables pour nourrir leur propre population. Mmh. Voilà. Donc pour ça, ils sont obligés d'aller chercher des terres qui sont disponibles ailleurs. Et donc ils le font à travers donc la marché qui est devenu tout.
Prosper Alagbé, alors vous allez vous rapprocher de votre combiné afin qu'on puisse bien vous entendre, puisque le sujet est intéressant et c'est la première fois qu'on l'aborde. Voilà.
Ok, donc je disais donc le problème est à prendre autrement. Aujourd'hui, on a des pays émergents qui ont des problèmes de disponibilité de terres arables. D'accord ? Vous m'entendez bien ?
Tout à fait.
Et donc, pour pouvoir assurer l'autosuffisance alimentaire de leur propre population, ils vont vers d'autres continents et vers d'autres pays pour acheter des terres. Mmh. Donc, c'est le fond du problème. Et donc, pour les pays destinataires donc, de ces investissements, on met souvent en avant trois avantages, mais qui sont des avantages fictifs, à savoir donc le développement donc de l'agriculture dans ces pays et la création d'emplois et puis le développement durable global, ce qui dans 70% des cas est faux. Mmh. Parce que généralement ces types de sociétés qui font cette transaction ciblent les pays où on a un droit de la propriété qui est défaillant.
Oui.
C'est le cas de l'Afrique, où on a des populations qui détiennent des terres mais qui n'ont pas de type de propriété. Mmh. Donc, ils peuvent être facilement délogés par l'État. Et on a aussi une problématique d'expertise. Donc, les gens qui souhaitent développer, donc via ce truchement, l'agriculture en Afrique, il n'y a pas les expertises forcément sur place pour produire, pour utiliser les nouvelles technologies agricoles et autres. Donc, il ne faut pas nous dire donc, dans ce cas qu'on vient développer l'agriculture locale. Mmh. Au mieux, la seule chose qu'on peut faire, c'est donner de l'emploi ouvrier agricole, ce qui revient encore et toujours à de l'exploitation donc des populations locales. Et sachant que la plupart des sociétés chinoises qui investissent dans ce domaine amènent leur propre personnel.
Leur propre personnel. Alors, avant qu'on cite les pays justement où se pratique cette agriculture, on sait aussi que les denrées alimentaires sont donc profitent aux pays que vous citez, par exemple la Chine, mais ils sont aussi transformés en agrocarburants.
Oui. Et au fait, il faut comprendre que ce n'est pas la pierre aux Chinois ou aux autres pays émergents, la problématique n'est pas là. C'est que eux, ils ont compris les enjeux du futur. Les enjeux du passé, c'était les matières premières que nos dirigeants ont allègrement bravées voilà. Et l'enjeu du futur, c'est quoi? C'est tout ce qui est agrocarburant, tout ce qui est matière première agricole, parce que on note que, étant donné que les terres arables diminuent, naturellement, les prix des denrées alimentaires vont augmenter.
Alors, mais pourquoi les dirigeants africains, encore une fois, ratent l'occasion de vraiment amorcer un développement du continent africain en misant sur l'agriculture, en misant sur le fait qu'il faut nourrir les populations africaines?
Oui, voilà. Non, vous avez parfaitement raison, mais là, c'est un autre problème. Hein. Je pense que ce n'est pas un problème d'ignorance des dirigeants. C'est des gens qui ont des conseils, qui ont fait des grandes écoles, ou c'est des gens qui eux-mêmes ont fait des grandes écoles, qui sont allés étudier un peu partout dans le monde, donc ils sont bien au fait des problématiques.
La réalité. Des Africains, voilà, quand vous dites des conseillers, c'est des conseillers africains.
Oui, je parle des conseillers africains. Mmh. Il faut arrêter de jeter la pierre. C'est les Africains d'abord. Donc, le problème se trouve à deux niveaux. Vous savez, lorsqu'il y en a très peu à partager, les gens ont tendance à amasser beaucoup. Donc, c'est un réflexe qui est humain. Donc, lorsque vous allez dans des pays africains où la majorité de la population crève de faim, excusez-moi le terme, vous avez des dirigeants qui ont pour seul objectif d'amasser le maximum pour eux se mettre à l'abri du besoin. Donc ça influence très fortement les décisions et les choix d'investissement. Donc on n'est pas dans des modèles où les dirigeants ont une vision prospective, donc une vision du futur, une stratégie à long terme. La stratégie, elle est d'amasser le maximum pour se mettre en sécurité, d'autant plus que, compte tenu de l'insécurité politique qu'on a dans nos pays, ils ne sont pas sûrs d'aller au bout de leur mandat ou de rester le temps qu'il faut pour développer des politiques de développement.
Mmh. Alors avant, c'était le pétrole, maintenant ce sont les terres.
Ce sont les terres.
Restez avec nous, Prosper Alagbé, excusez-moi de vous interrompre. René Velve, excusez-moi d'écorcher votre nom, c'est bien comme ça qu'on le prononce, Velve.
Velve.
Alors vous êtes cofondatrice de l'association Grain, qui soutient les paysans africains et lutte contre la faim. Alors, est-ce qu'il faut jeter la pierre aux multinationales ou alors inciter les dirigeants africains à prendre leurs responsabilités ainsi que les cerveaux africains qui les conseillent?
Je crois que c'est un mélange de tout cela. Oui. Franchement, parce que c'est vrai qu'il y a plein de multinationales qui s'investissent là-dedans, les Asiatiques, beaucoup de fonds financiers de l'Occident, hein, des fonds de pension, etc., qui veulent s'enrichir dans la terre africaine. Donc il y a toute cette avarice, cette faim pour le profit de la part de ce système-là, de ces entreprises-là. Il y a les dirigeants africains qui, il faut leur en parler plus, hein, sur cette question, parce que ils ont l'air de quand même porter une idéologie de développement qui consiste à faire ce bond en avant. Ils disent ça, hein, ça c'est le discours classique, bon, qu'à travers l'investissement étranger, on va faire un bond en avant vers la modernité pour moderniser l'agriculture, etc. Mais comme ça, on oublie complètement l'agriculture paysanne. Et on sait très bien que l'agriculture paysanne, traditionnelle, avec des améliorations, nourrit actuellement l'Afrique et peut nourrir l'Afrique. Et il ne faut pas bafouer tous les investissements déjà qui se font par la paysannerie, les droits qu'il faut renforcer, etc. Mais il laisse ça de côté et regarde vers cet investissement extérieur. Et ça fait problème pour les associations agricoles en Afrique. Donc ça,
alors,
il faut creuser ça plus.
Qu'en pensent les paysans africains dans leur ensemble?
Mais eux, ils réclament tout d'abord des droits convenables sur la terre. Mmh. Comme disait le monsieur tout à l'heure, la terre est extrêmement importante en Afrique. Les étrangers viennent beaucoup actuellement parce que il y a une question de prix. C'est vrai que les terres agricoles en Afrique sont moins chères qu'en Argentine ou aux États-Unis, mais surtout, c'est le fait que les gouvernements ne protègent pas les droits des paysans sur la terre. Hein? Ils réclament la terre comme une propriété nationale de l'État, et ils disent qu'il n'y a pas de paysans là, il n'y a pas d'éleveurs, c'est pas vrai, et ils arrivent à signer les concessions. Mais les paysans réclament quand même, c'est pas vrai, les éleveurs sont là, les paysans sont là, et ils veulent avoir une sécurité foncière tout d'abord. Et ça, c'est important aussi parce que tous ces accaparements de terres sont en train de faire de la terre une marchandise. Et en Afrique, surtout, la terre n'est pas une marchandise.
Quelles sont les solutions que vous préconisez?
Pour nous, il est absolument urgent d'arrêter ces accaparements de terre, de ne pas continuer à faire ces contrats qui se font de toute façon dans l'obscurité totale, mais avec l'appui de la Banque mondiale et les bailleurs de fonds, il faut arrêter ce processus et puis repenser comment nourrir l'Afrique. Ou si c'est une question de comment nourrir la Chine, on parle de comment nourrir la Chine. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Et l'Afrique, les paysans africains peuvent mieux nourrir l'Afrique s'ils sont donnés les moyens. Donc ça, c'est le problème pour les paysans africains. C'est pas comment est-ce que nous, on va nourrir la Chine.
Oui. Alors ce phénomène d'achat et de location des terres africaines aux pays étrangers et aux multinationales se développe avec insistance dans des pays comme le Soudan, convoité par les pays du Golfe et d'Asie, Madagascar, avec l'implication scandaleuse d'une multinationale sud-coréenne, au Sénégal, je pense qu'Alassane qui est au bout du fil va nous en parler, au Cap-Vert, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau. Oui, attendez Alassane.
Je vais vous dire tout simplement, notre premier problème c'est nos dirigeants. Et nos dirigeants, vraiment, il ne faut pas les laisser à la politique, parce que la politique c'est pour nous. Si on ne s'occupe pas... Deux, ils vont s'occuper de nous d'une manière désordonnée. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai constaté chez moi, dans ma région, aux États-Unis, en égalité, j'ai constaté, il y a eu quand même des choses extraordinaires. On a dit que ce sont des investisseurs. On ne connaît pas, est-ce qu'ils sont là pour 10 ans? Rien ne dit. On ne dit pas quel investissement, est-ce qu'ils ont acheté? On ne connaît pas. Il y a d'autres qui parlent 50 ans, d'autres qui parlent 30 ans, ils vont rester ici, ils vont produire. Ça, ce sont des Italiens. Il y a aussi des Chinois. On a entendu l'Arabie Saoudite qui a acheté l'ensemble des bords du fleuve, c'est-à-dire loin des bords du fleuve, qui ont acheté. Donc ça, tout ça, c'est dans une confusion totale. Et on nous vend le Ghana, ça fait 3 ans, qui ne produit absolument rien. Ce sont des cadres des partis socialistes, non, partis au pouvoir actuel, des amis d'Ablawad, à qui on donne des terres, les ministres, les gouverneurs qui vont cultiver. Mais les paysans eux-mêmes n'ont rien du tout, n'ont rien du tout.
Merci maintenant, Alassane. Je vais prendre d'autres réactions, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous interrompre. Gabriel.
Oui,
oui bonjour, je vous écoute. Bonjour. Oui.
Oui, moi, j'aurais voulu ajouter un mot sur ceux qui ne sont pas forcément des expatriés, c'est-à-dire des Européens ou des Chinois qui viennent acheter des terres, mais entre les Africains. Le problème ivoirien, c'est vraiment le problème criant de cette histoire de terre. Aujourd'hui, au temps d'Oufouette Boigny, il avait lancé une bombe en disant que la terre appartient à ceux qui la mettent en valeur. Et ça, il croyait que c'était que les gens de sa région, c'est-à-dire le centre, qu'on appelle les Baoulés, qui devaient venir à l'ouest pour cultiver les terres. Mais tout le monde l'a entendu. Tous les voisins, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, ils sont tous venus et aujourd'hui, ça fait une guerre. La guerre à 70% est venue des terres. Des terres que des gens sont venus occuper sans les payer. Ils disent que j'ai acheté la terre. Est-ce qu'on peut acheter une terre avec une bouteille de vin ou bien une bouteille d'huile? C'est des escroqueries comme ça. Et les gens ont pris les terres des pauvres villageois. Les morts à l'ouest, des problèmes des terres, c'est même pas problème politique. Les gens veulent occuper les terres et ils veulent chasser complètement ceux qui étaient là avant. Ils disent que, non, moi je suis là depuis 20 ans. Mais comment tu es venu là et comment tu occupes la majorité des terres des pauvres villageois qui meurent de faim? Ils n'ont même plus de terres à cultiver.
Merci Gabriel.
Donc, il faut qu'ils aillent très loin pour cultiver des terres. Donc ce n'est pas seulement avec les Occidentaux ou bien des gens qui sont venus de Chine que les Africains perdent leurs terres.
Mais merci.
Nos propres voisins qui ont compris qu'il faut cultiver et abondamment. Donc, c'est comme ça, ils sont venus occuper des terres en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait la guerre.
Prosper Alagbé, alors, il y a du travail à faire. Par quel bout commencer?
Oui, voilà. Donc déjà, par rapport à l'intervenant de tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas faire des amalgames. Hein. Mmh. Je crois que si, à un moment donné, la Côte d'Ivoire s'est ouverte à encourager l'immigration donc de sous-régionale, donc à accepter que des cultivateurs maliens, burkinabés ou autres viennent cultiver les terres chez eux, c'est parce qu'ils avaient un déficit de main-d'œuvre. Et ces gens ont contribué de façon exceptionnelle au développement de la Côte d'Ivoire, notamment à l'explosion des ventes de cacao et autres. Donc, c'est très facile de jeter la pierre à toutes ces personnes. Mmh. Bon, le problème revient au problème de type de propriété. Si, effectivement, il a raison sur un point, si effectivement il y avait à la place du droit traditionnel un droit privé de la propriété, on aurait su, donc, à qui appartiennent vraiment les terres. Donc la problématique aujourd'hui, c'est une problématique historique et ça, j'espère que les Ivoiriens vont arriver à s'entendre un peu et régler ce problème, mais ce n'est pas avec des discours comme l'intervenant de tout à l'heure, des discours de ce genre, qu'ils vont pouvoir aboutir à une solution.
Alors qu'est-ce qu'ils vont faire?
Donc, pour par rapport à la problématique centrale qui nous occupe aujourd'hui, moi je pense que il faut vraiment qu'on change de cap dans la gestion de l'agriculture en Afrique. Hein. C'est-à-dire que, très clairement, on passe également, comme tout le monde le fait, dans l'agriculture financière. Et ceci en protégeant, bien sûr...
Oui, mais on en voit les conséquences, hein.
Non, mais je vais vous expliquer. Oui. Parce que, quelle est la problématique? Si les gens courent en voiture et que nous, on continue à courir à vélo, on risque de se faire distancer encore et encore et pour longtemps et au final, bon ben, on va tout perdre. Alors, donc, première chose, premier chantier, une réforme agraire. Je crois que l'un des problèmes essentiels qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est le manque de statut des paysans. Les paysans n'ont pas de statut dans tous les pays africains. Le paysan n'a aucun statut. Donc, il faut faire une réforme, doter les paysans donc de types de propriété, de reconnaître la propriété aux paysans et aller au-delà, les organiser et les fixer de statut. Donc, ce serait une reconnaissance étatique des paysans et ils le méritent largement.
Alors pour les terres qui appartiennent à l'État, parce que ça existe, qu'est-ce que l'État doit faire?
Alors, l'État, moi, je pense qu'au lieu de vendre les terres au fonds d'investissement étranger, il vaut mieux que les États africains mettent en place eux-mêmes des fonds d'investissement, des fonds souverains, qui vont être des fonds agricoles dans lesquels ils vont pouvoir aller sur les marchés financiers, non pas pour vendre les terres, mais pour vendre des parts d'exploitation. C'est-à-dire qu'ils restent propriétaires de la terre, mais ils peuvent, par des moyens financiers, émettre des parts, récupérer de l'argent de l'investissement étranger et pouvoir développer ces terres avec une politique maîtrisée de développement.
Alors, il nous reste 4 minutes malheureusement, Prosper Alagbé. Vous parliez de mettre en place une véritable politique agraire en Afrique. Quand on prend le cas du Zimbabwe, on se pose la question de savoir s'il ne faut pas attendre une génération, deux générations fortes afin qu'au bout de ce laps de temps soit formé de véritables chefs d'entreprise agricoles. Une véritable nouvelle race de paysans africains pour que justement nos pays africains soient autosuffisants sur le plan alimentaire.
Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que les réformes n'attendent pas. Hein. Plus on attend pour faire des réformes, plus on échoue. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique, quand même, a assez de maturité et assez de capacité, s'il y a une volonté politique, pour qu'il y ait un grand chamboulement.
S'il y a volonté politique.
Il y a une volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est la volonté politique. Hein. Et c'est très clairement... tous les problèmes africains, à 70%, c'est un manque de volonté politique.
Alors, vous avez noté, et ça, c'est assez déplorable, même si on le savait, que c'est les cerveaux africains eux-mêmes qui conseillent désormais les chefs d'État et qui leur font prendre des décisions... ou des décisions telles que celle-là, vendre et louer justement ces sols africains aux multinationales.
Oui, c'est le problème, je vais peut-être aussi vous surprendre, le problème finalement, de l'Africain est identitaire. C'est-à-dire on a un problème identitaire. On vit ensemble, mais on n'est pas ensemble. On est dans des pays où il y a tellement de communautés, de clans. On se dit, c'est pas béninois, ivoirien ou autre, mais au final, on ne se sent pas béninois ou ivoirien parce que, bon, voilà, on n'a pas cette notion d'identité chez nous. Et lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce n'est que travailler pour votre propre intérêt. Mmh. Et je pense que les problèmes, le problème est très complexe. Hein. C'est pas que économique. Il y a une vraie partie culturelle et il y a une vraie partie identitaire. Et tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes identitaires en Afrique et des Noirs en général, des Noirs de l'Afrique subsaharienne en général, on ne pourra pas s'affirmer par rapport aux autres et les gens pourront facilement nous diviser avec de l'argent, avec des intérêts, et voilà. Et on aboutira toujours à mettre en parenthèse les intérêts nationaux, les intérêts communs par rapport aux intérêts personnels. Mmh, alors... On n'a pas cette notion.
Alors, j'appuie sur le trait à dessein, peut-être pour sensibiliser nos décideurs africains et ceux qui les conseillent. Est-ce que, avec cette situation, on en est à une deuxième colonisation de l'Afrique? En 30 secondes, qu'est-ce que vous répondez, Prosper Alagbi?
Oui, très clairement, je pense que on n'est pas encore... Enfin, on a été décolonisé juridiquement, mais je pense que mentalement, on agit toujours comme des colonisés, hein, les Africains. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir réveiller les consciences pour que cette révolution intellectuelle et identitaire se fasse, pour qu'on commence désormais à pouvoir s'affirmer et à pouvoir affirmer des positions, non pas pour aller contre le monde, mais pour dire au monde, on existe, on est là, et c'est ce que nous, on a envie de faire parce que vous avez envie de nous imposer.
Merci Prosper Alagbé, je rappelle que vous êtes consultant et président de Africa Compliance. Renée Velvé, cofondatrice de l'association Grain. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Merci aux auditeurs qui ont écouté et qui ont participé au JDA. Je vous donne rendez-vous demain sur Africa numéro 1, même heure, même fréquence.